présence, 15h. De passage à Lourdes.
Il arrive qu'on appelle ce pèlerinage le pèlerinage du sourire. Il s'agit de Lourdes Cancer Espérance. Nous en recevons le directeur aujourd'hui, Robert Ferrua. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diacre pour le diocèse de Monaco. Merci pour cet échange avec vous, où vous allez nous raconter votre vocation diaconale, comment vous en êtes venu à être directeur de ce pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, qui rassemble bon an mal an quelques 5000 pèlerins à Lourdes chaque année, c'est souvent au mois de septembre. Et ce pèlerinage, c'est non seulement un temps fort qui se vit à Lourdes, mais également, nous allons le découvrir sans doute avec vous, une vie toute l'année à travers des délégations qui irriguent toute la France et même au-delà, puisqu'il y a maintenant des délégations dans quelques pays aux alentours de la France et puis à Monaco, dont vous avez été un membre de cette délégation. Robert Ferrua, vous êtes diacre du diocèse de Monaco, et c'est peut-être par là que nous allons commencer. Parlez-nous de cette église que je qualifierais de très spécifique, puisqu'elle est toujours sous le régime du Concordat. Vous êtes, vous, monégasque, hein ? Vous avez cette chance de faire partie de quelques 10 000 monégasques. Cette église est sous le régime du Concordat. Qu'est-ce que cela signifie ?
Bien, tout d'abord, merci à vous de m'accueillir et je salue bien sûr vos auditeurs. Oui, l'église de Monaco qui dépend directement, qui est concordataire avec Rome et qui dépend directement du Vatican. C'est d'ailleurs bien inscrit dans la constitution de la principauté, à l'article 9, la religion catholique et religion d'État. Et ensuite, bien sûr, il y a la signature du concordat entre la principauté et le Vatican, puisque l'Église, tout ce qui est des bâtiments appartiennent à l'État, les évêques et les prêtres sont des fonctionnaires. Donc voilà, disons ce qui est de l'Église de Monaco.
Alors vous dites la religion catholique est religion d'État, et en même temps, il y a quand même un article de la Constitution qui dit que toutes les religions, même les sans religions d'ailleurs, sont acceptés, les bienvenus, et il n'y a aucune difficulté de ce point de vue.
Non, absolument aucune difficulté. Et ensuite, un article 26 ou 29 de la Constitution qui laisse l'entière liberté de culte, d'avoir un autre culte. D'ailleurs, nous avons deux autres églises amies chrétiennes qui sont également en principauté, les protestants et les anglicans. Et bien sûr, cet article permet aussi de ne pas avoir, de religion et de ne pas être obligé de fermer ou de ne pas travailler les jours de fête religieuse. Voilà, il y a l'entière liberté. Et maintenant, depuis que la principauté est en train de passer des accords avec l'Union européenne, il y a aussi une liberté d'association qui est passée.
Alors je voulais vous faire parler pour commencer de Monaco, parce que c'est une singularité, voilà, et c'est intéressant de vous entendre, vous, là-dessus. Vous êtes diacre pour ce diocèse. Depuis combien de temps êtes-vous diacre
Depuis, disons, le 3 avril 2005. Alors, au départ, c'est un peu triste, puisque je suis ordonné le dimanche de la Divine Miséricorde, qui était voulu par notre regretté Saint-Père Jean-Paul II. Et Jean-Paul II est décédé le samedi, veille du dimanche de la Divine Miséricorde. Donc j'ai été ordonné diacre alors que le Saint-Père venait de décéder et que le prince régnait luttait entre la vie et la mort, puisque lui aussi allait décéder quelques jours après l'ordination. Alors il y a bien sûr cette tristesse en pensant à notre Saint-Père, en pensant au souverain, mais il y a aussi bien sûr la joie de devenir au service du Seigneur par le diaconat permanent.
Vous êtes père de famille, vous êtes marié à Fulvia, votre épouse.
44 ans de mariage, une grande fille de 34 ans, de merveilleux petits-fils. Voilà.
Le diaconat a été totalement réhabilité et encouragé par l'Église à partir du Concile Vatican II. Est-ce qu'on peut parler de vocation diaconale ? Et si oui, comment ça vous est arrivé à vous ?
Ben disons, c'est un appel. Moi, je crois fermement à la vocation diaconale et au ministère diaconal. Et j'ai ressenti cet appel. Alors bien sûr, chaque baptisé reçoit un appel du Seigneur. Il faut d'abord l'entendre, cet appel, et ensuite répondre. Bon, avant de répondre, je crois qu'il a fallu, si mes souvenirs sont bons, 3 appels du Seigneur. C'est puis au 3e appel, j'ai dit, bon, ben, j'ai compris, je vais répondre. Non, vous sentez vraiment quelque chose au fond de vous qui vous appelle à vous engager au service du Seigneur. Alors, quand on reçoit cet appel, ça n'est pas par écrit, on ne reçoit pas un mail. Hein, l'Esprit Saint, nous n'avons pas un courriel pour vous dire, ça y est, je t'appelle, va te former. C'est au fond du cœur, est-ce que c'est un appel au diaconat? Est-ce que c'est un appel à servir l'Église par le service des jeunes, de la famille, des vocations? Lecteur, catéchiste, non, il me semblait que je sentais l'appel pour le diaconat permanent, pour ce ministère merveilleux. Et il y a bien sûr 5 ans minimum de formation pendant lesquels, voilà, vous verrez entre vous et l'équipe, bien sûr, l'équipe diaconale qui va vous suivre durant la formation, si vraiment vous êtes appelé à ce ministère et si vraiment vous êtes fait pour ce ministère.
Alors vous nous disiez, ça ne se passe pas par mail, le Seigneur n'envoie pas des mails ou bien du courrier. Mais pour vous, très concrètement, vous dites qu'à 3 reprises, vous avez senti cet appel.
Oui. C'est quand même un peu drôle aussi. La première fois, je sens un appel, c'était un rassemblement de prières et on demandait de prier, il y avait pas mal de monde, on demandait de prier pour les vocations et qui se sentait appelé et j'ai levé la main parce que je me sentais appelé et ensuite j'ai baissé la main parce que je n'étais même pas au courant du diaconat permanent. J'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que je fais? Je lève l'appel pour la vocation et puis je suis marié, père de famille, donc... voilà. Et puis ensuite, j'ai un peu approfondi, j'ai su qu'il y avait le diaconat permanent qui avait été ouvert depuis Vatican II également aux hommes mariés. Mais en allant à la messe le matin, un diacre permanent, je ne savais pas qu'il était diacre, mais qui assistait toujours avec moi à cette messe, on a commencé à faire connaissance et alors il me dit, est-ce que tu n'as jamais pensé au diaconat permanent? J'ai dit, regarde, j'y ai pensé, mais tu sais, je suis un bon vivant. Moi, le samedi soir, j'aime bien sortir avec la famille, les enfants, aller avec d'autres familles, on fait un repas ensemble. On aime bien s'amuser et tout, donc je pense, dans quelques temps, je réfléchirai un peu. Et en patois, en monégasque, il me répond, moi je comprends tout ce que tu me dis, mais réfléchis bien, il me semble que tu es en train de dire, Seigneur, oui, j'ai attendu ton appel, mais attends un petit moment, je m'amuse encore un peu, et puis ensuite je vais répondre à ton appel.
Vous sauriez nous le dire en monégasque, justement, ça? Vous parlez, oui.
Si, c'est proprio in cammin de dire che hai ricevuto la chiamata du Seigneur, che ti dice de venir au suo servizio, e tu che dici, sì, Seigneur, ho ricevuto la chiamata, ma aspetta ancora un po', voglio ancora divertirmi, ma poi dopo vedremo bene.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, le troisième appel, voilà, c'était un diacre durant une célébration de la messe. À la fin de la messe, lui aussi, il me dit, est-ce que tu n'y as pas pensé? J'ai dit, bon, ben, je crois que ça fait 3 fois, alors il serait temps pour moi peut-être de dire oui au Seigneur.
Et voilà, voilà comment vous devenez diacre après un temps de formation.
Voilà,
vous
c'est
nous
ça.
Avez parlé. Et vous l'êtes à partir de 2005, du 3 avril 2005.
3 avril 2005, voilà, 12 ans et demi.
Bon, alors évidemment, là, après, c'est un nouvel engagement qui vous est donné pour vous engager dans quel sens comme diacre? Qu'est-ce que vous y avez fait au sein de cette église de Monaco depuis cette date de 2005?
Ben disons, durant la formation, un peu les formateurs, les professeurs voient un peu plus ou moins à ce que vous pourriez être appelé. Ils ont bien sûr les discussions. Ensuite, ils font le rapport à l'évêque qui la veille reçoit l'épouse du diacre pour avoir son accord. D'accord à ce que son mari soit ordonné diacre. Et disons au début, en plus de la mission paroissiale qu'il m'a confiée à l'église Sainte-Dévote, patronne de la principauté, et qui est donc l'église de mon domicile. Au départ, il m'a confié la tâche de créer le service diocésain de la charité et de la solidarité et de donner un coup de main à la revue diocésaine Église à Monaco et de garder les contacts avec l'Automobile Club et l'AS Monaco Football, dont j'étais dirigeant depuis 1995. Voilà, donc ça a été les premières missions que j'ai reçues, création de ce service diocésain de la charité qui n'existait pas, collaborer avec le bulletin diocésain tout en gardant les rapports avec les associations sportives auxquelles j'étais attaché. Voilà.
On voit là combien le diacre est sur le seuil, c'est-à-dire sur ce lieu d'accueil, ce lieu où on fait du lien entre l'extérieur de l'église et l'intérieur de l'église. Donc vous, on vous a dit en gros, vous étiez impliqué dans le football, continuez à l'être, faites le lien, vous étiez impliqué également dans d'autres associations, continuez.
Oui, continuer. Ben, disons, créer le service diocésain de la charité et de la solidarité, ça n'a pas été une mince affaire, mais j'ai pu être aidé par cela par un diacre permanent du diocèse de Nice qui avait été en formation même durant mon époque de formation et qui était déjà là. Donc, il a pu me donner des conseils. Et puis ensuite, j'ai continué, bien sûr, à fréquenter l'AS Monaco Football et l'Automobile Club de Monaco. Et j'ai pu continuer avec eux. D'ailleurs, cette collaboration avec l'AS Monaco, ça a pu porter ses fruits. Puisque ensuite, Monseigneur m'a confié la tâche de président de Caritas Monaco, qui est l'association nationale, l'équivalent du Secours catholique Caritas France. Et lors d'une campagne que nous faisions, d'une mission pour la Nouvelle République du Soudan du Sud, l'AS Monaco nous a donné 1 euro par spectateur présent lors d'un match de football de Ligue 1, Monaco-Lyon au stade Louis II. Donc voilà, la collaboration continue. Alors, je suis plus dirigeant des équipes de jeunes, mais je suis toujours en rapport et toujours supporter, bien sûr, de l'AS Monaco.
Merci Robert Ferroa de rester avec nous. Nous continuons cette émission juste après la pause. Nous continuons par dialoguer ensemble sur Lourdes Cancer Espérance, dont vous êtes le directeur depuis septembre 2015. À tout de suite.
Merci à vous.
En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo.
Amén.
La pace sia con voi.
Et con il tuo spirito.
Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du Pape, retrouvez l'essentiel de l'audience du Pape sur la place Saint-Pierre.
Chaque mercredi à 16h.
De passage à Lourdes.
De passage à Lourdes.
Notre invité aujourd'hui, Robert Ferroa. Il est diacre permanent pour le diocèse de Monaco et directeur du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance. Ce pèlerinage très étonnant, en fait. Lorsqu'on le voit à Lourdes, s'installer dans Lourdes, d'abord Lourdes est pavoisée des couleurs de Lourdes Cancer Espérance, couleurs du vert et du blanc. Et puis également, c'est ce que l'on appelle parfois le pèlerinage du sourire, c'est-à-dire que malgré les souffrances, malgré les épreuves, ces pèlerins diffusent l'espérance à travers leur bonne humeur, leur joie d'être ensemble. Vous en êtes le directeur, Robert Ferroa, depuis 2015. Est-ce que c'est aussi ce qui vous a frappé lorsque vous avez commencé à côtoyer Lourdes Cancer Espérance, ce décalage qu'il y a entre... quand même, le poids de la souffrance, le cancer, quand ça vous tombe sur la tête, c'est quand même lourd. Et puis, ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire cette capacité à diffuser l'espérance. Est-ce que vous-même, vous avez été frappé par ça ?
Mais tout d'abord, un grand merci aux commerçants de la ville de Lourdes et au sanctuaire, bien sûr, qui pavoisent durant notre semaine de pèlerinage aux couleurs vert et blanche, la ville et les sanctuaires de Lourdes. Alors oui, la première fois, lorsque nous préparions notre premier pèlerinage avec Lourdes Cancer Espérance, avec mon épouse, franchement, On croyait en venant à ce pèlerinage que ça allait être la gêne, c'est-à-dire on va arriver là-bas, ça va être des pleurs, des grincements de dents, on va voir des souffrances, on va voir des gens qui ont mal et tout, et on va aller là-bas et tout. Et puis après, lorsque vous arrivez, c'est tout différent. Il y a là, l'intercession de la Vierge Marie qui nous permet au cours de cette étape d'oublier un peu, de laisser peut-être un peu de côté les préoccupations dues à la maladie, ces lourds traitements, la chimiothérapie et tout, et qui nous donne ce moment d'espérance. Alors bien sûr, l'espérance de la guérison, mais surtout cette espérance d'avoir la force de continuer ce combat. Et effectivement, lorsque vous venez à Lourdes, que vous voyez tous ces liens qui se créent avec les autres malades, les regards de ces personnes qui sont merveilleux quand vous tournez l'église avec les prêtres ou les évêques, que vous les accompagnez pour donner la communion, l'onction des malades, vous voyez dans ce regard un regard qui est difficile à croiser. Et j'en avais parlé, je crois que quand on croise le regard de ces malades, on croise le regard de Jésus. Et c'est là que c'est très difficile. On peut pas, oui. Je crois qu'on n'est pas assez spirituel pour le supporter, ce regard de Jésus. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mais c'est un grand espoir. Ça n'est pas le pèlerinage des pleurs et de la souffrance. C'est vraiment un pèlerinage du sourire, de l'amitié, de la bonne humeur.
Lorsque vous, avec votre épouse Fulvia, vous décidez de vous engager dans Lourdes Cancer Espérance, vous ne vous en engagez pas, bien sûr, comme directeur à cette époque-là. C'est votre épouse qui, d'une certaine façon, par la maladie qui la frappe, qui vous fait entrer tous les deux en couple dans cette, ce que j'appellerais, aventure humaine et spirituelle qu'est Lourdes Cancer Espérance.
Et oui, dans cette belle et grande aventure humaine et spirituelle, puisque pratiquement lorsque je débute ma formation diaconale, le cancer se déclare à mon épouse. Et donc la formation commence avec déjà cette traversée du désert, cette peur, cette lutte contre la maladie et la souffrance. Et ensuite, il se passe un an. Et les traitements sont terminés, les nouvelles sont bonnes, elle entre en rémission. Donc nous nous rendons tous les deux au sanctuaire Notre-Dame de la Guée, sur les hauteurs de la principauté de Monaco, dans le diocèse de Nice, pour remercier la Vierge Marie de son intercession auprès de son fils Jésus. Et en tournant dans le triumvirat du sanctuaire, c'est là que nous tombons sur une affiche de Lourdes Cancer Espérance Monaco qui annonce le prochain pèlerinage de septembre à Lourdes. Alors il faut dire qu'en allant à la Guée pour remercier le Seigneur, mon épouse me dit: maintenant que je suis en rémission, j'aimerais bien m'engager, faire quelque chose pour le Seigneur, pour les autres personnes. Et à ce moment-là, on tombe juste sur l'affiche. Donc voilà, c'est fait. C'est comme ça que nous commençons. Et donc, je suis encore en formation diaconale. Je ne suis pas diacre et loin de là d'être directeur. Après, je vous dirai sur ce terme de directeur que j'aime pas beaucoup, puisque je me vois plutôt comme serviteur de pèlerinage et non pas directeur. Je ne suis pas là pour diviser, pour diriger, je suis là pour servir.
Je rebondis sur ce que vous avez dit à l'instant, c'était une traversée du désert, comme Jésus. À quel moment vous réussissez à dépasser l'idée que cette maladie qui vous tombe dessus, qui tombe d'abord sur le corps et la vie de votre épouse, Fulvia, mais sur votre couple, à quel moment vous dépassez l'idée que c'est une sorte de punition? Parce qu'on peut avoir ce réflexe en disant: qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?
Oui, et je crois, on le voit aussi dans les carrefours, qui est un moment fort de notre pèlerinage Lourdes Cancer Espérance. Au début, c'est bien sûr la fameuse phrase qui vous vient à l'esprit: mais qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu? Surtout que nous, en plus de ça, le début du cancer, la découverte du cancer à mon épouse, coïncide à peu près avec mon entrée en formation diaconale. Alors bien sûr, pour lutter contre ça, bien sûr, il faut bien sûr la prière, beaucoup beaucoup de prières pour vous donner cette sérénité, cet espoir et aussi ce rapprochement avec le Seigneur. Et ensuite, la présence très importante d'avoir un directeur spirituel et qui vous remet sur le droit chemin, qui vous fait comprendre que c'est une traversée du désert, mais que le cancer ne vient pas du Seigneur. Le cancer aurait été là même s'il n'y avait pas eu le diaconat, même s'il n'y avait pas eu à faire cette traversée du désert pendant la formation, voilà. Mais que par contre, le Seigneur est là pour vous aider, pour vous donner la force de poursuivre. C'est un peu là le rôle du mari, hein, c'est d'avoir cette force. Notre fille était très jeune encore, elle avait 16 ans. Mon épouse avait encore la chance d'avoir ses parents qui étaient très âgés, donc c'est pas facile de digérer tout ça. Et ensuite, elle était aussi très jeune, mais voilà. Et pour justement combattre, éviter de tomber du mauvais côté, de celui du désespoir, la prière et ensuite la présence d'un bon conseiller.
Parlez-nous, monsieur le directeur, vous n'aimez pas ce titre, vous
venez
de me
tout.
Le dire. Donc
pas
je fais exprès
tout.
De vous provoquer un tout petit peu de ce pèlerinage Lourdes Cancer Espérance. Il y a des délégations un peu partout. Il y a la vie en délégation qui sont en quelque sorte des associations rattachées à la grande association. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est à peu près l'organisation. Et cette vie de Lourdes Cancer Espérance, c'est bien sûr, en termes de point d'orgue, le pèlerinage. Et également une vie toute l'année d'accompagnement, une vie fraternelle au sein de ces délégations. Ça doit être réjouissant comme directeur, comme responsable de voir la vitalité quand même d'un tel pèlerinage.
Oui, c'est merveilleux parce que bien sûr, comme vous venez de le dire, le point d'orgue de ce pèlerinage, c'est bien sûr la troisième semaine de septembre. Notre pèlerinage qui maintenant est un pèlerinage international, puisqu'en dehors de toutes les délégations françaises qui se trouvent dans presque tous les diocèses de France, il y a également des délégations à l'étranger, c'est un pèlerinage francophone, donc en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Principauté de Monaco. Mais Lourdes Cancer Espérance, ce n'est pas uniquement la troisième semaine de septembre, il y a une vie toute l'année au sein de ces délégations. Il y a une vitalité, il y a toutes les journées qui sont organisées, les journées d'amitié, les visites qui se font aux malades, les prières de soutien et tout. Alors, la chance d'être au service de ce pèlerinage, c'est de pouvoir visiter ces délégations et de ne pas connaître uniquement les pèlerins durant le pèlerinage. C'est de voir la vitalité, de rencontrer des gens merveilleux qui sont justement au service des pèlerins et des malades. Et c'est pas une tâche facile parce que, vous l'avez dit, c'est entre 5 000 et 7 000 pèlerins. Nous en sommes au 32e ou 33e pèlerinage. Bon, il est parti de 300 personnes. Nous en sommes maintenant arrivés entre 5 000 et 7 000 pèlerins. Il faut penser, le vendredi, l'onction des malades, c'est presque 1 000 onctions qui sont distribués de ce sacrement. Mais il y a une grande vitalité dans toutes ces délégations. Et de les visiter, c'est une force incroyable que vous recevez à la rencontre de ces gens merveilleux. Et c'est ensuite une grande joie et une grande vie durant toute l'année. Une amitié, fraternité qui se lie entre tous.
Le fait d'allier ces trois mots lourds, cancer et espérance, ça fait preuve d'une audace, d'une sacrée audace, j'ose dire, quand même. Lourdes, cancer, espérance.
Et oui, je crois qu'il faudrait retourner 33 ans en arrière, réfléchir un peu au début, lorsque l'association est créée ici à Lourdes et lorsque le premier pèlerinage est lancé. Il y a 33 ans, on n'osait pas parler du cancer. On ne partageait pas, on ne le disait pas. On se cachait, on avait honte, on avait peur. Souvent dans les familles, malheureusement, on a vu aussi des familles qui se sont brisées à cause de ça, des couples face à la maladie, face aux responsabilités. Je crois qu'il fallait avoir le courage de le lancer. Alors Lourdes, voilà pourquoi Lourdes, parce que Lourdes, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui apparaît et qui nous montre la voie, qui nous montre un chemin, accompagnée de Bernadette. Elle nous dit, voilà, je vous donne Bernadette, elle va vous faire voir le chemin qui conduit au cœur de mon fils Jésus. Alors bien sûr, il y a le cancer qui est là, mais on allie cette douleur, on allie cette maladie, on allie ces souffrances avec le soutien de la Vierge Marie, avec les prières. Et voilà pourquoi du cancer, de la souffrance, de Lourdes, de la prière, on en arrive à l'espérance. L'espérance qui vous donne cette force de lutter, cette sérénité. Nous avons eu, dans la tristesse bien sûr, mais la possibilité d'accompagner des personnes qui après nous ont quittés pour entrer dans la vie éternelle. Et on pouvait voir qu'après ce pèlerinage, après ce qu'elles avaient reçu ici à Lourdes, elles partaient avec beaucoup de sérénité. C'est beaucoup de sérénité qui était donnée, beaucoup de courage face à la souffrance, face à la mort. C'est ça qui est merveilleux à Lourdes, c'est ça qui est merveilleux dans ce pèlerinage LCE.
Je vous remercie, Robert Ferrua, pour ce témoignage.
Merci à vous.
Comme responsable du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, vous nous avez permis d'entrer un peu dans ce que j'ai appelé tout à l'heure cette aventure humaine et spirituelle qui est proprement édifiante, assez étonnante. Pour ceux qui s'intéressent à Lourdes Cancer Espérance, vous tapez sur Internet, à mon avis, Lourdes Cancer Espérance, vous tomberez forcément par un moteur de recherche sur le site Internet.
Vous tombez sur le site de l'association, et vous avez également toutes les adresses des délégations en France et à l'étranger. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez rencontrer la déléguée ou écrire directement ici à Lourdes si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous sommes là au service, nous sommes là à disposition.
Merci beaucoup. Au
Merci.
Revoir.
Passage à Lourdes.
Présence.
Vous aimez les émissions de Radio Présence ? Microscopie. Paroles d'auteur. Vivante Église. Des clés pour vivre.
Présence.
Toutes ces émissions et bien d'autres encore sont disponibles sur CD. Commandez-les par courrier à Radio Présence.
4 rue des Feuillants. 31300 Toulouse.
Ou par email à contact@radioprésence.com.
Présence.
Présence.
L'onde positive.
Tu vas en